continuer dans le livre des Actes. Et donc, pour ceux qui ont profité de l'épisode précédent, on était arrivé dans Acte 8 avec ce grand passage qui raconte la conversion des premiers Samaritains, donc des habitants de la Samarie. Et puis, je vous avais dit la dernière fois que je n'avais pas eu le temps de tout aborder, donc on allait aborder la suite une prochaine fois. Donc, pour rappeler un peu le contexte, l'Évangile se répand, il arrive en Samarie, et quand l'Évangile arrive en Samarie, il y a deux surprises. La première, c'est que les Samaritains se convertissent, les Juifs détestent les Samaritains, ils sont très gênés, en fait, que des Samaritains puissent être sauvés. Et la deuxième chose où ils sont surpris, c'est que les Samaritains ne reçoivent pas l'Esprit. Ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit quand ils se convertissent. Et les apôtres doivent se déplacer de Jérusalem pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et puis la suite du passage nous raconte l'exemple d'un magicien qui devient chrétien et qui continue à penser comme un magicien. Il veut acquérir de la puissance et il veut impressionner les autres. Voilà. Et Pierre va lui rappeler qu'il doit se repentir et lui rappeler que les dons de l'Esprit, c'est justement des dons. On ne peut ni les acheter, ni les vendre. Voilà, on avait abordé beaucoup de choses la dernière fois, mais il nous restait une grande question en suspens, qui est la grande question, est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint lorsqu'on se convertit, ou est-ce qu'on le reçoit lorsque quelqu'un nous impose les mains? Alors, je crois que je vous ai mis quelques diapos de rappel, si tu peux mettre la suite. Voilà, juste rappeler la leçon principale du passage qui est de dire, Jésus fait ce qu'il dit, on le dit parfois sous cette forme, Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand Dieu commande quelque chose, c'est tout autant une promesse quelque part. Il a promis que le Saint-Esprit se répandrait en Judée, en Samarie et jusqu'au bout de la terre, et il l'a promis, donc il le fait. Bon, c'est peut-être pas plus compliqué que ça, mais c'est la leçon principale de ce passage. Avec deux grandes questions de notre passage en Samarie, qui est, quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Et puis, quand est-ce que je suis transformé? Avec cet exemple un peu désastreux de ce magicien qui se convertit et qui ne semble pas tellement être transformé par Jésus-Christ. Et comme dit, la deuxième question, on l'avait déjà traitée ensemble, donc on va s'occuper plutôt de la première question. Quand reçoit-on l'Esprit-Saint? Voilà. Et puis, je vous ai mis après un extrait de notre confession de foi. Vous savez qu'on a une confession de foi qui est celle de notre fédération d'église, le réseau FEF, et qui dit de manière très claire, « Nous croyons que l'Esprit Saint, personne divine, est un avec le Père et avec le Fils. Il est donné à tout croyant et vient habiter en lui au moment où celui-ci s'unit à Jésus-Christ par la foi. » Vous voyez les deux affirmations de ce paragraphe. Le premier, c'est que le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père et le Fils. C'est ça l'affirmation la plus principale de ce l'affirmation principale de ce paragraphe. Et puis, il y a une sorte d'annexe qui est « Il est donné à tout croyant au moment où il s'unit à Jésus-Christ ». Dans nos milieux, on parle de conversion. Le mot « conversion » est parfois utilisé différemment dans d'autres lieux. Mais « conversion » au sens « Je me repens de mes péchés et » je décide de lier ma vie à Jésus-Christ pour le reste de mon existence et pour l'éternité. Voilà. Voilà, ça c'est la conviction de nos églises. Lorsqu'on s'unit à Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, il faut bien admettre qu'il y a d'autres mouvements chrétiens qui ont d'autres positions sur le moment où on reçoit l'Esprit dans nos vies. Et ça me paraît important qu'on puisse aborder aussi ces éléments-là. Alors on va faire quelques détours, on va évidemment revenir au texte d'Acte 8, parce que c'est un des textes qui pose débat entre les différentes positions. Je vais en présenter 4 tout à l'heure. Et puis le chapitre d'Acte 8, mais aussi celui d'Acte 2, font partie des chapitres qui sont très discutés pour entre les tenants d'une position ou d'une autre. Voilà. Mais je vous invite d'abord à relire, quelques versets dans Acte 8. Voilà, on va prendre à partir du verset 4. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Et on va sauter un bout pour arriver au verset 14. « Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. » Voilà. Un passage qui nous raconte un peu deux étapes différentes. Ils se convertissent et ils sont baptisés. Puis il y a une deuxième étape où les apôtres doivent se déplacer tout spécialement de Jérusalem pour leur imposer les mains. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils reçoivent l'Esprit et qu'ils deviennent, on va dire, des chrétiens complets, si vous voulez. Des chrétiens habités par le Saint-Esprit. Alors, dans le monde chrétien, il y a trois groupes de chrétiens qui soutiennent qu'il faut une deuxième ou plus d'étapes dans la vie chrétienne. Dans nos milieux, on parle de seconde, d'une ou de plusieurs expériences, mais bon, d'autres utilisent d'autres vocabulaires. Je le préviens quand même, hein, je suis obligé de caricaturer les quatre positions que je vais présenter parce que il faut aller un petit peu vite. Donc, évidemment, chacune mériterait un développement beaucoup plus long si on voudrait être complet. Donc, la première, j'ai déjà courtement développé, puis on en reparlera après avec notre confession de foi. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on s'unit à Christ, on reçoit l'Esprit en même temps. Les trois autres, les voici. Alors, je crois que je vous les ai mis en résumé. Voilà, vous les avez déjà ici. Le premier groupe, qui est surtout représenté par les catholiques, vont soutenir qu'il faut l'imposition des mains par un évêque ou par son représentant pour être habité par l'Esprit. Pour les catholiques, on devient chrétien par le baptême, mais on doit ensuite confirmer notre baptême et ensuite encore recevoir une imposition des mains, souvent avec une onction d'huile, pour que l'Esprit Saint vienne habiter en nous. Vous voyez que cette approche s'appuie très directement sur l'histoire des Samaritains. Un représentant officiel de l'Église doit venir imposer les mains. Et puis, pour compléter le tableau, il faut parfois une cérémonie encore supplémentaire, l'ordination, pour être équipé par Dieu pour le service. Avoir quelque part un espèce de supplément d'onction ou de présence de l'Esprit pour être équipé pour le service. Et il y a un peu quatre étapes hein, dans ce cheminement-là. Le deuxième groupe, c'est le groupe des pentecôtistes et d'une partie des charismatiques, qu'ils vont dire qu'on devient chrétien par la conversion, jusque-là pas de surprise, en tout cas pour nous, et puis qu'il faut une seconde étape pour recevoir l'Esprit. Et pour certains, il faut encore d'autres expériences pour recevoir des dons spirituels. Avec dans certains des mouvements pentecôtistes, une sorte de hiérarchie, il y a le chrétien simple, lambda, il y a celui qui a reçu le Saint-Esprit, il y a celui qui prophétise, puis il y a celui qui guérit. Et puis il y a une espèce de hiérarchie comme ça entre les chrétiens. Vous constaterez que cette position-là n'est pas très loin de la position catholique, en fait. La différence, c'est que l'accent n'est pas mis sur l'intervention de l'Église, mais sur une expérience que je vis moi seul avec le Saint-Esprit. Certains pentecôtistes vont dire que le signe de la présence de l'Esprit, c'est que la personne parle en langue, d'autres qu'il a une vie transformée, ou d'autres encore qu'il a vécu des guérisons physiques. Il y a encore un troisième groupe qui va soutenir que la conversion ne suffise pas, qu'il se passe encore quelque chose d'autre après. C'est le groupe de ceux qu'on appelle les piétistes. Historiquement, on fait la différence entre les piétistes et les puritains. On va parler des piétistes. Hein, qui est le mouvement qui a le plus directement influencé nos églises évangéliques, dites parfois traditionnelles. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce mouvement piétiste? Alors, on devient chrétien par la conversion, par la confession de nos péchés et par notre attachement à Christ, mais que ça ne suffit pas, qu'il faut que quelque chose se passe pour une intervention particulière du Saint-Esprit qui conduit à une conviction profonde qu'on a reçu ce pardon de Dieu. On parle alors parfois de certitude du salut. Donc il y a les convertis, et puis il y a ceux qui ont vraiment, voilà, qui ont quelque part reçu le Saint-Esprit, qui ont cette certitude du salut. Voilà, c'est très rapide comme caricature, mais vous voyez ici trois grandes positions qui vont dire que la conversion ne suffit pas, il faut un deuxième événement, expérience ou cérémonie d'église. Ou peut-être parfois d'autres encore. Et vous avez sans doute entendu parler de ces trois positions-là, et peut-être même vous les avez entendues chez nous au culte, parce que on est parfois un peu confus là, hein. Tous n'ont pas tout à fait les mêmes positions sur cette question. Mais vous constaterez qu'à ce niveau-là, notre confession de foi est très claire, et en l'occurrence, je pense qu'elle est très biblique. Alors il reste encore à vous démontrer pourquoi je pense qu'elle est biblique, mais voilà. Avant d'aller plus loin, il me semble quand même important de préciser que les débats entre ces quatre positions ont été très rudes dans le passé et sans doute aujourd'hui encore. Et des tenants de chacune des quatre positions sont parfois allés dire aux autres « Écoute, moi je suis un chrétien complet, mais toi il te manque quelque chose. » Ouais. Et je pense qu'il est sage parfois de reconnaître que bon, on n'est peut-être pas forcément toujours habilité, nous, à savoir qui est chrétien, qui ne l'est pas, qui est un chrétien spirituel ou qui ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire par là. Il me semble que dans la Bible, le signe de la présence de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Donc Galates 5, 22. Une vie transformée, si vous voulez. Et il faut parfois un peu éviter de surinterpréter les expériences. Vous savez comment on interprète toujours ce qu'on a vécu, mais parfois on les interprète un petit peu de travers. Vous avez déjà remarqué quand on parle d'un événement en famille. C'est toujours intéressant, on parle du même événement, mais chacun l'a vécu différemment. Ce qui montre bien qu'on a parfois de la peine à vraiment comprendre qu'est-ce qu'on doit comprendre d'une expérience qu'on a vécue, et surtout d'une expérience que quelqu'un d'autre a vécue. Où là, on peut vraiment être un peu à côté de la plaque parfois. Et puis, il nous faut aussi être assez réaliste. Nous avons tous tendance à vouloir voir chez les autres exactement la même chose que dans ma propre vie. Vous voyez, comme si ma vie c'était la norme et que tout le monde devait vivre pareil, quoi. Je pense que c'est important de se rappeler que sur Terre, il n'y a jamais deux feuilles d'arbres pareilles. Vous avez vu le nombre de feuilles d'arbres qu'il y a? Il n'y en a jamais deux pareilles. Le Seigneur, il n'aime pas se répéter. S'il m'a fait vivre certaines choses, gloire à Dieu. S'il vous a fait vivre d'autres choses, gloire à Dieu. Mais vouloir absolument que tout le monde soit pareil, je pense que c'est être un petit peu à côté de la plaque. Bon. Ça, c'était une petite mise en garde en passant, en disant, nous avons tous un effort à faire pour nous respecter dans le cheminement qui est le nôtre. Maintenant, pour pouvoir un petit peu dépatouiller ce grand débat assez compliqué, il me semblait important de revenir, alors c'est aussi l'occasion du pasteur de revenir là-dessus, de parler des règles d'interprétation de la Bible. On ne lit pas la Bible n'importe comment, voyez ? Alors, je vous propose ici un résumé de trois des règles principales lorsqu'on lit la Bible et qu'on veut l'interpréter. La première règle est relativement simple, c'est qu'on doit tenir compte de la Bible tout entière. Lorsqu'on construit une doctrine, on doit tenir compte de tous les textes bibliques qui parlent de cet élément-là. Et puis, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple de tout mettre ensemble. Notamment sur la doctrine du Saint-Esprit, on en parle vraiment depuis Genèse 1 à Apocalypse 21. C'est pas toujours simple de mettre tout ensemble. Mais nous devons le faire. Les réformateurs aimaient parler d'analogie de la foi. Ça voulait dire pour eux, la Bible s'explique par la Bible. Une manière de dire qu'on court toujours le risque d'expliquer la Bible à partir de notre propre expérience, ou on court aussi le risque d'expliquer la Bible en fonction de notre propre système d'interprétation. J'ai une conviction, et puis ensuite, je cherche dans la Bible pour réconforter mon point de vue. Alors qu'il faudrait faire peut-être l'inverse. Chercher ce que la Bible dit vraiment. Pour prendre un exemple assez simple, lorsque j'étais au Bénin, j'ai rencontré un mouvement évangélique qui dit que la Bible commande de ne pas se faire baptiser. Il se base sur 1 Corinthiens 1,14 qui dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui dit « Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous. » Et donc ils disent, vous voyez, l'apôtre Paul ne baptisait pas. Si vous êtes baptisé, vous vivez donc dans la désobéissance. Repentez-vous et venez chez nous. En gros, c'était ça leur discours. Vous comprenez ? Leur problème, c'était qu'ils prenaient un verset, et en plus un morceau de verset, parce que si on lit le reste du verset, c'est autre chose, et puis ils le dissociaient de tous les autres passages qui parlent du baptême. Une deuxième règle importante, c'est que lorsqu'on construit une doctrine, on s'appuie en priorité sur les textes d'explication par rapport aux textes de récit, aux histoires. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours simple d'interpréter correctement un récit. Ça veut dire, par exemple, quand on construit une doctrine sur le Saint-Esprit, on s'appuie surtout sur l'évangile de Jean et sur les épîtres, plutôt que sur le livre des Actes. Parce que ce n'est pas toujours simple d'interpréter correctement un récit. Par exemple, pour prendre un autre exemple un petit peu caricatural, c'est pas moi qui l'ai vécu, on me l'a rapporté, c'était dans une réunion de pasteurs, et un des pasteurs, il prétendait interpréter toujours la Bible de manière directe et littérale. Et il a fait une grande diatribe pour expliquer que tout le travail pour essayer de mettre un passage biblique dans son contexte, pour comparer un verset à d'autres versets, c'était mettre notre intelligence avant la Bible. Voyez le discours. Donc un autre pasteur lui a dit « Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à Troas chercher le manteau de Paul ?» Ouais, parce que dans 2 Timothée 4,13, il y a un commandement très clair « Va à Troas chercher mon manteau. » Vous voyez ? On ne peut pas sans autre prendre un texte qui est dit dans un contexte particulier et l'appliquer à tout le monde comme ça. Vous voyez ? Alors bien sûr, après, il y a parfois un débat assez vif pour savoir ce que l'on doit prendre de manière directe et ce qu'on doit prendre avec tout ce travail de mise dans le contexte biblique. Voilà. Et il y a des textes où c'est facile, il y a d'autres textes où il y a des vrais débats, effectivement. L'histoire du manteau de Paul, en principe, on est au clair que... Bon, voilà. Mais c'est en particulier vrai pour les textes d'acte 8 et les textes d'acte 2 de Pentecôte. Est-ce qu'on doit le prendre direct, et c'est la même chose qui doit se passer pour tous, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé une fois pour les Samaritains qui ne doit pas forcément se reproduire à d'autres moments. Mais il y a un débat qui n'est pas forcément simple à mener. Le troisième élément, qui est un élément très important par rapport à la question du Saint-Esprit, c'est se rappeler que Dieu a révélé son message de manière progressive. Et on doit tenir compte de ça. Dieu, il n'a pas tout dit d'entrée à Adam. Vous voyez ? Il a développé et il a mis en place son salut de manière progressive. Et quand on lit un texte biblique, il faut se rappeler à quel endroit il se situe dans cette chronologie-là. Parce qu'il y a en effet certains événements qui ne sont pas appelés à se reproduire. D'autres, oui, bien sûr. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, évidemment, c'est pour tout le monde. Hein. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas appelées à se reproduire. Évidemment, la mort de Jésus sur la croix n'est pas appelée à se refaire. On nous l'a décrit, c'est pour une fois pour toutes. On pourrait dire la même chose des sacrifices d'animaux, par exemple, qui préfigurent, qui expliquent le sens de la mort de Jésus, mais qui n'ont pas à se reproduire. En tout cas, c'est ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Moi, je trouve que c'est dommage, j'aurais de la viande grillée tous les dimanches, ça serait sympa. Hein. Mais ouais, vous voyez, il y a des choses qui sont vraies pour un temps, mais qui ne sont pas appelées à se reproduire dans le développement de l'enseignement du salut. Et dans ce cadre-là, bon, il est clair que la croix est une rupture très importante. Dans la Bible, il y a avant la croix, après la croix. C'est un peu le grand événement de l'histoire du monde, hein, la mort et la résurrection de Jésus. Et on doit tenir compte, est-ce que les passages ont lieu avant ou après ? Et les apôtres, les 12 apôtres, ont une situation un petit peu étrange, parce qu'ils ont un peu un pied dans chaque côté, vous voyez ? Ils ont connu l'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance. Ils sont un peu à cheval, si vous voulez, sur deux systèmes, je ne sais pas comment dire ça. Hein. Du coup, ils sont quand même dans une situation un petit peu pas normale ou pas habituelle. Et comme je l'ai dit, par exemple, pour Pentecôte, il y a un grand débat pour savoir est-ce que ça se situe dans la période, un peu cette période de transition intermédiaire, ou est-ce que ça se situe dans la période d'après la croix, donc vraie pour tout le monde et qui doit se reproduire tout le temps. Voilà, trois règles. Trois grandes règles d'interprétation, tenir compte de toute la Bible et pas seulement d'un verset ou d'un passage biblique, donner la priorité aux passages d'explication sur les passages de narration, de récit, et puis tenir compte de la chronologie, la manière dont Dieu a mis en place le salut dans l'histoire des hommes. Voilà. En tenant compte de tout ça, je vais tenter de mettre tout ça ensemble et de rester compréhensible et cohérent. Alors, simplement, rapidement, lire et commenter très rapidement trois courts passages. Je crois que j'ai remis sur le PowerPoint, si tu peux mettre la suite, notre extrait de la confession de foi. Voilà. Avec trois petits versets. Acte 2, verset 38, donc 39. Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » C'est la suite de Pentecôte. Voyez ? On dit que des nouveaux croyants reçoivent l'Esprit Saint. On ne parle pas de manifestation spéciale ni d'imposition des mains. On dit que s'ils se convertissent, ils reçoivent l'Esprit. Romains 8, 9 dit ceci. « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Voyez cette phrase. « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint, ben, il n'est pas chrétien. Ouais. Une manière de dire, quand on est chrétien, on a l'Esprit. Si on n'a pas l'Esprit, c'est qu'on n'est pas chrétien. On ne peut pas avoir la présence de Jésus dans nos vies sans avoir l'Esprit de Christ avec. Vous voyez, ça fait partie... Enfin, c'est juste logique. Éphésiens 1, 13 à 14, qui dit ceci, il faudrait lire tout Éphésiens 1, mais on va lire que ces deux versets. « En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. » Vous voyez, être chrétien est résumé ici par cette phrase « être en Christ ». Être en Christ. Parce que je vis en Christ, je profite des biens qui sont en fait à Christ. Sa mort, sa résurrection, son Saint-Esprit, la vie éternelle. C'est des biens qui appartiennent à Christ. C'est pas quelque chose, vous voyez, qu'on reçoit comme ça, comme quand on va au supermarché, quoi. C'est quelque chose, c'est parce qu'on est uni à Christ qu'on profite de ces biens qui sont à Christ. Voilà. On doit bien sûr se poser la question, pourquoi certains chrétiens sont tièdes, sont déviants ou légalistes, alors qu'ils sont censés être dirigés par l'Esprit-Saint, n'est-ce pas ? Mais vous voyez que c'est une autre question que la question de la présence ou non de l'Esprit. C'est plutôt la question de la marche selon l'Esprit ou selon mon propre ego. Est-ce que je mets l'Esprit Jésus-Christ, l'Esprit du Christ à la première place, ou est-ce que je le reçois mais je le garde dans le placard ? C'est plutôt ça la question. Lorsqu'on est chrétien, on reçoit l'Esprit Saint, ça va avec. Être uni à Christ, c'est aussi profiter des biens qui appartiennent au Seigneur. Maintenant, se pose bien sûr la question, qu'est-ce qu'on fait d'acte 8 ? Où il y a des gens qui sont considérés comme chrétiens, qui se font baptiser, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait de ce texte ? Puisque la règle, c'est on prend tous les textes bibliques. Alors, tout le monde a une certaine difficulté à tout mettre ensemble avec ce passage-ci. Hein. Donc, je vous propose une des solutions qui me paraît la plus cohérente pour mettre ensemble la grande majorité des textes de la Bible qui disent « quand t'es chrétien, t'as l'Esprit Saint », et puis ce passage-ci qui semble faire dissonance. C'est une manière de comprendre qui s'appuie sur l'idée d'une chronologie. Il y a des étapes. Et puis que dans acte 8, on est encore un petit peu dans l'étape intermédiaire. Alors, si tu peux mettre l'image suivante. C'est une image que j'ai volée au professeur Sinclair Ferguson. Il faut quand même le citer pour repas. Voilà. C'est l'image de l'adduction d'eau. Vous voyez un peu le principe. Une ville qui met en place un système d'adduction d'eau. Un jour, une ville a décidé de mettre en place un système de distribution d'eau potable. Pour les habitants, vous imaginez que c'est une grande résolution. Plus besoin d'aller au puits, plus besoin de boire l'eau de la rivière qui ne doit pas être très bonne. Enfin, l'eau de l'Eure, et je pense que c'est pas un peu boueux, quoi. Lorsqu'on parle de l'eau au robinet, tous les habitants vont parler de ce grand jour d'inauguration où enfin l'eau est arrivée dans les maisons. Ouais. Évidemment, objectivement, le projet de l'adduction d'eau a été fait bien des années auparavant. Et puis il faudra encore des années de travaux pour que ça soit réellement complètement réalisé. Mais ce qu'on retient, c'est la date d'inauguration. Alors on va appeler ce jour le jour de Pentecôte, par exemple. Hein ? Le jour d'inauguration où ce qui était impossible avant commence à devenir possible. Au moment de l'inauguration, il n'y a bien sûr pas de l'eau partout, il n'y a que de l'eau au centre-ville. Ensuite, on va connecter progressivement les autres quartiers, qu'on pourrait appeler la Samarie, la Galilée, la Turquie, l'Irlande, etc., ou la France. Hein. Mais on garde clairement en tête que c'est à Pentecôte que tout a pu commencer, qu'il y a eu une grande nouveauté. Ce qui était impossible avant devient maintenant possible. Il y a un accès possible. Bien des années après, le réseau est partout, et lorsqu'on construit des nouvelles maisons, on branche simplement la maison sur le réseau. Et il n'y a rien de spectaculaire. Mais évidemment, on se rappelle que c'est à cause de Pentecôte que c'est possible. Avant, ça ne l'était simplement pas. Et puis évidemment, il y a des gens qui, depuis le début, n'ont pas voulu adhérer au projet. Il y a de l'eau dans la rue, mais ils n'ont pas voulu connecter leur maison. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être qu'ils ne font pas confiance au réseau d'eau, ou ils ont une dent contre le maire, ou ils sont très fiers de leur autonomie, j'en sais rien. Hein. Mais alors, évidemment, le fait que l'eau est possible et accessible, ça ne veut pas dire que tout le monde l'a. Il faut que chacun dise, moi aussi, je veux en faire partie. Voilà, c'est une image, elle ne dit pas tout, mais je trouve qu'elle est assez juste, quelque part. Elle montre cette réalité que les apôtres, ils sont un petit peu à cheval entre deux choses. Ils sont dans le moment où le Saint-Esprit commence à être donné à l'Église. Il n'est pas encore partout, si j'ose dire ça comme ça. Hein. Et quand on lit la Bible, acte 2, mais ensuite acte 8, et puis acte 10, qui est l'ouverture de l'Esprit Saint aux païens, on se rend compte que, manifestement, Dieu a voulu que les apôtres soient présents à chacune de ces espèces de grandes étapes où l'Esprit Saint se répand plus loin. Parce que, sans doute, il fallait montrer de manière très claire que c'est le même Saint-Esprit pour toute l'Église, que ce n'est pas un autre Saint-Esprit. Dans l'histoire de l'Église, et à partir d'acte 15, on en parlera beaucoup, il y a eu toujours ce débat-là, où certains ont dit « Ah oui, non, mais nous, on est les vrais chrétiens, eux, ils sont un peu des chrétiens de deuxième zone, voyez ?» Et une des choses que Saint-Esprit a voulu faire, c'est marquer de manière très forte que c'est bel et bien le même Saint-Esprit pour les chrétiens d'origine juive, pour les gens de Samarie et pour les gens d'origine païenne. C'est le même Saint-Esprit. D'où, sans doute, cette présence systématique des apôtres qui sont là et qui vont attester « C'est bien le même Saint-Esprit que nous avons reçu. » Voilà. C'est une manière d'harmoniser tous ces textes de la Bible qui parlent à la fois que ce qui compte, c'est de s'unir à Christ, et quand on est uni à Christ, on a le Saint-Esprit, et à la fois où on voit ces passages un petit peu étranges où il y a manifestement des étapes. Vous verrez dans acte 10, où il y a la conversion de Corneille, qu'on a de nouveau une étape un peu intermédiaire. Voilà. J'espère que juste ici, c'est un peu clair, comme tentative d'harmoniser tout ça ensemble. Maintenant, j'aimerais faire un deuxième flash. Qui est la question, quand nos amis nous parlent de baptême de l'Esprit, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ce qui est clair dans la Bible, c'est qu'on nous parle de toutes sortes de manifestations de l'Esprit, qui sont décrites comme des dons, comme des charismes, donc des dons, des cadeaux de l'Esprit, qui peuvent être extrêmement variés et différents. Vous remarquez par exemple pour l'apôtre Pierre qu'il va vivre plusieurs fois des manifestations très spectaculaires avec l'Esprit. Acte 2, 4, 8, 10, et sans parler de toutes les guérisons dont il a été témoin. On n'est pas en train, vous voyez, je fais juste la différence en disant, évidemment, on s'attend à une action manifeste parfois du Saint-Esprit. Mais on fait la différence entre ces dons de l'Esprit et puis le fait de le recevoir ou de ne pas l'avoir. Vous voyez, il me semble qu'il faut faire un peu cette différence-là. Alors, pour un peu en guise de conclusion, je vous propose de reprendre ici les conclusions du d'un théologien qui s'appelle Daniel Fatzer. Il a fait une grande enquête sur le baptême du Saint-Esprit. Alors ici, il est pris d'une manière un peu particulière. C'est qu'il a interrogé plein de chrétiens de toutes sortes de bords différents et il leur a demandé de parler de leur expérience spirituelle. Et ensuite, il a essayé de les classer et de faire le lien dans la Bible. Ça correspond à quoi ? Alors, il propose 8 manières différentes de parler d'expérience que parfois les gens appellent baptême du Saint-Esprit. Voyez, 8. Alors, je ne vais pas tous les commenter longuement. Pour certains, c'est la conversion. Typiquement, pour des gens qui ont grandi dans l'Église, qui ont une sorte de culture chrétienne et qui, enfin, un jour, l'Esprit les touche et ils décident de s'attacher personnellement à Jésus-Christ. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je me rappelle un jeune baptisé que j'avais conduit au baptême et qui avait témoigné en disant « Il y a un jour où j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre à partir de la foi de mes parents. Je devais vivre de ma foi en Jésus-Christ. » Pour d'autres, c'est une prise de conscience de la présence de l'Esprit dans leur vie. L'Esprit qui était déjà là, mais ils en prennent conscience à ce moment-là. C'est un petit peu ce que j'ai vécu moi. J'ai eu la chance de me convertir au lycée et d'être tout de suite intégré dans un petit groupe de prière entre lycéens. Et c'est là qu'on m'a appris à s'attendre à l'intervention de Dieu dans ma vie. Jusque-là, je pense que ma vie de foi, c'était surtout un raisonnement, une décision, un acte de volonté, vous voyez ? Et puis, j'ai appris dans ce groupe de prière à demander à l'Esprit d'agir dans ma vie. Voilà. Je ne pense pas que j'ai reçu l'Esprit à ce moment-là, mais vous voyez, il y a une nouvelle étape dans mon vécu. Pour d'autres, c'est une expérience de reconsécration après un temps où ils sont éloignés du Seigneur, ils sont revenus au Seigneur. Pour d'autres, c'est une force nouvelle, en particulier quand le Seigneur nous appelle à une mission difficile. Il est assez courant qu'il nous donne une espèce d'action manifeste de sa présence qui va nous soutenir pour ensuite un temps qui peut être compliqué. Pour certains, c'est un nouvel élan de louange ou de prière. Pour d'autres encore, un réveil intérieur, en particulier après des périodes de doute ou de stagnation, et le Seigneur agit dans nos vies. C'est par exemple, dans la Bible, l'expérience de l'auteur du psaume 119. Si vous connaissez ce long psaume, si on le lit, on se rend compte que c'est quelqu'un qui s'était éloigné de Dieu, et à un moment donné, le Seigneur l'a touché, et il s'est rattaché de nouveau au Seigneur. Et il vit quelque chose de très fort intérieurement à ce moment-là. Enfin, ça peut être le moment où le Seigneur nous donne des dons particuliers. Alors, par exemple, ça peut être le parler en langue, dont parle Paul dans 1 Corinthiens 14. Maintenant, si on regarde le contexte de ce passage, notamment 1 Corinthiens 12, verset 13, où Paul dit « Nous avons tous été baptisés dans le même esprit ». Sous-entendu, ceux qui prophétisent et ceux qui ne prophétisent pas, ceux qui parlent en langue et ceux qui ne parlent pas en langue, ils ont été baptisés dans le même esprit. Vous voyez ? Il va faire la différence entre être uni à Christ, avoir le Saint-Esprit, et avoir reçu un don particulier, précieux, important pour l'édification de l'Église. Voilà, ces 8 catégories. J'aimerais préciser que vous voyez que ces 8 choses qui sont des très bonnes choses. Et peut-être dans la vie de chacun d'entre nous, on aura besoin de passer par les 8. Vous voyez ? Si je le dis comme ça, c'est parce que j'entends parfois, ou je lis parfois dans certains ouvrages, des personnes qui vont dire « Ah ouais, ces manifestations de l'esprit, c'est pas bien, c'est démoniaque. » Non, je ne crois pas. Ce sont des choses très positives. Faisons la différence entre une manifestation de l'esprit et le fait d'avoir ou pas l'esprit, mais ce sont des choses très positives que nous avons à demander au Seigneur. Voilà, j'en arrive à la conclusion. La multiplication des croyants dans l'église de Jérusalem va obliger l'église à s'adapter. C'est ce qu'on a vu dans Actes 6. Mais si la multiplication des églises à différents endroits géographiques va aussi obliger de s'adapter. Et notamment avec cette grande question, comment va tenir ensemble la diversité voulue par Dieu avec l'unité voulue par Dieu ? Et c'est pas facile. C'est facile de vouloir l'uniformité et c'est facile de laisser chacun faire ce qu'il veut. C'est pas ça le projet de Dieu. Il y a une grande diversité, on est chacun très différent, mais il y a un seul esprit. Et je crois que ce passage parle essentiellement de ça. Comment l'esprit de Dieu veille à la cohérence de l'Église. en montrant que c'est bien lui qui conduit chacun à se convertir. Qu'il n'y a pas des chemins différents pour les Juifs, les Samaritains, les Français ou les Italiens, ou je ne sais pas. Il n'y a pas forcément une hiérarchie unique, pas forcément une même expérience pour tous, mais un seul esprit et un seul Seigneur. Je crois que le point central de notre foi, c'est d'être au bénéfice de l'œuvre radicale de Jésus, qui est mort, ressuscité pour nous. Et parce qu'on est unis à lui, on profite des bienfaits de sa mort, de sa résurrection, de son esprit, et puis peut-être encore d'autres choses. Toutes des choses dont on n'y est pas pour grand-chose, hein. On profite de bénédictions qui appartiennent au Seigneur et qu'il nous donne parce qu'il nous aime et parce qu'il est généreux. Voilà, un petit survol, un peu rapide, sur la doctrine de l'esprit. Voilà. Et je vous invite évidemment et surtout à relire tous ces passages dans la Bible et à les mettre ensemble. On a tous tendance à avoir un peu des marottes et à se tenir qu'à certains passages de la Bible. Je vous invite à prier encore.